ici en Outaouais. Les sujets de l'heure. Entrevue. Éditorial. Jusqu'à 14h, vous écoutez LP le midi.
Il est dans le studio avec son chandail des Capitals de Washington, qui joue contre le Canadien ce soir.
C'est une coïncidence.
Oui, c'est ça. J'ai jamais vu avec un chandail du Canadien, Carl.
Et j'en ai pas.
T'as les 31 autres clubs?
Presque. J'ai beaucoup j'ai beaucoup de trucs. J'ai un chapeau de pêche des Canadiens, quelque part.
Écoute, c'est une stratégie qui semble porter fruit dans ton pool.
Ça va bien dans mon pool.
C'est très bien placé dans le pool du 187. Félicitations.
Merci.
OK, passons aux choses sérieuses. Le gouvernement Legault est sur la défensive dans le dossier des CHSLD.
Ouais, sur la défensive, encore une fois, mais on sait, il y a l'enquête du coroner, Madame Maître Kamel, qui se plaignait notamment du manque de collaboration et du manque de preuves écrites qu'elle pouvait recevoir lorsqu'elle les demandait.
Ça paraît mal.
Ça paraît très mal, surtout quand les journalistes finissent par les sortir. Alors là, on en voit, on s'est fait dire que les rapports sur ce qui se passait dans la CHSLD, c'est des rapports oraux, puis ça n'existait pas à l'écrit. Puis Thomas Gerbet de Radio-Canada a découvert le formulaire qui était utilisé par les inspecteurs. Oups!
Oups, certain!
Ah, mais parce qu'on les recevait puis on les écrasait dans le système.
Non,
tu sais, je veux dire... Et là, il y a le rapport de la protectrice du citoyen qui est sorti hier sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Et c'est accablant, Louis-Philippe. C'est accablant. Et ça démontre à quel point ce gouvernement-là s'est fait prendre les culottes baissées et ont refusé non seulement de l'admettre, mais d'agir avec rapidité. Et quand je dis gouvernement, évidemment, il y a les politiciens, mais il y a aussi la machine. La machine, le ministère de la Santé. Et donc, on est en mode défensif aujourd'hui. On dit, mais non, on avertit le réseau. On avertit le réseau au mois de janvier. On a une lettre. Hein? Mathieu Lacombe, d'ailleurs, faisait partie de ceux de la CAQ qui poussait cette lettre-là, une lettre qui avait été envoyée par un DG adjoint au ministère de la Santé au réseau. Puis qui disait, écoute, je vais te la citer, là. Que les mécanismes de sécurité civile allaient être déployés au ministère de la Santé et des services sociaux, comme dans le réseau de la Santé et des services sociaux, pour la coordination de l'opération visant à assurer un état de préparation optimal relativement à l'apparition d'un nouveau coronavirus.
Wow, c'est clair ça, Carl?
Sens-tu l'urgence? Ça, c'est envoyé le 28 janvier. Ça, c'est le signal d'alarme qui est envoyé par l'état-major au réseau. Résultat des courses, on n'était pas prêt. Et non seulement ça, pour les CHSLD, on n'avait rien prévu. Et ça fait 4000 morts quand on compte les RPA.
Et on se rappelle qu'on avait un directeur de la santé publique qui était pas mal au-dessus de ses affaires par rapport à cette crise-là qui s'en venait. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui me dérange le plus, là, c'est vrai qu'il y avait des choses imprévisibles. C'est vrai que c'était pas facile nécessairement de gérer cette crise-là, quoi qu'on ait été les pires en matière de décès dans les CHSLD.
Absolument.
Là. Mais... c'est le cover-up, là. Ça me dérange encore plus, de ne pas être capable d'admettre que, bon, on a manqué notre coup, ça n'a pas été facile, on a fait notre possible, mais là, d'essayer de cacher des documents, ça,
des rapports, des formulaires, la façon de faire. Et moi, je crois que c'est pas François Legault qui coordonne ça, puis c'est pas Martin Koskinen, son chef de cabinet,
okay,
ou Daniel McCann.
Protège pas le monde qui n'a pas fait sa job, là.
Puis
là, ce qu'on veut, c'est la vérité. Pour plus jamais qu'on aille là.
Carl, ça prend une enquête publique indépendante. La petite enquête du coroner, c'est pas assez grand.
Évidemment, François Legault ne veut pas
savoir. Hey,
en année électorale.
Mais ça prend une enquête publique indépendante pour pas qu'on reproduise les mêmes erreurs, pour qu'on apprenne. Parce que tous les plans de gestion de pandémie avaient été basés sur ce qui s'était fait avec la H1N1, avec le SRAS. On était supposé être prêts. Mais les CHSLD, on n'était pas prêts, on n'avait pas prévu ça. Les écoles non plus, hein. Dans le plan de gestion de pandémie, là, on n'en parlait pas des écoles. On ne savait pas ce qu'on allait faire avec quand on est arrivé le temps de décider, au mois de mars, rappelle-toi. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur job. D'ailleurs, quand Mathieu Lacombe dit à ceux qui remettent en cause le travail de notre collègue ministre McCann, voici la lettre qui prouve qu'elle avait raison. Ils l'ont mis dehors! Elle n'est plus ministre de la Santé pour une raison. Elle l'a échappé en tant que chef de ce réseau qui devait gérer la pandémie.
Puis c'était-tu comme... Là, je le sais, là, qu'on joue au gérant d'estrade après, là, mais c'est comme évident qu'un virus comme celui-là va affecter les personnes âgées. Là. C'est l'évidence même. Là.
Écoute, tu dis on joue au gérant d'estrade. Je me souviens, moi, d'une chronique politique que j'avais faite avec Roch Cholette à la veille du Super Bowl, où on parlait du Super Bowl puis de la pandémie qui s'en venait puis de la façon que... Là, on est au mois de janvier, là. avant que ça éclate. Le docteur Arruda n'a pas été voir François Legault sur cette question-là avant le mois de mars. Il prenait pas ça au sérieux, faisait des blagues.
Et il est encore là, lui.
Et il nous disait d'acheter du papier de toilette, c'était une affaire
ridicule,
de fou.
Ridicule, oui.
Pendant ce temps-là, dans d'autres juridictions, je te prends l'exemple du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, ministre de l'Éducation, pendant les fêtes, en vacances au Costa Rica, il écoute BBC, le poste de télé britannique, drôle de vacances, mais bon, il écoute ça, il voit les reportages sur ce qui se passe en Chine, quand il revient, il a dit, faut se préparer, ça s'en vient ici, faut avoir un gros plan, mettre ça à jour. Résultat des courses au Nouveau-Brunswick, la première vague, c'était une des meilleures juridictions, parce que lui, il a vu ça venir, puis il a pris des décisions politiques.
Et on rappelle que nous, on a été la pire.
Fait que ça prend une enquête publique. C'est le message que j'ai à dire là-dessus aujourd'hui.
Le budget de Gatineau repoussé au mois de janvier, ce n'est pas une surprise.
C'est pas une surprise.
Mais la balle est dans le camp de Mme Bélisle maintenant de prouver que c'est la bonne chose à faire.
Oui, bon, évidemment, il faudra que le budget qui sera présenté soit vraiment différent de ce qui aurait été présenté maintenant. Parce que là, il y a des coûts qui viennent avec ça. Hein? En retardant le budget, on a des pertes d'environ 725 000 $. C'est pas rien. C'est pas rien. Intéressant, par ailleurs, de voir la dynamique politique sur ce premier vote significatif au Conseil. Action Gatineau n'a pas voté en bloc. En fait, ils ont voté avec la majorité, sauf pour le chef parlementaire Steve Morin qui a voté contre.
Mais ça, c'est quand j'ai entendu ça, Carl, là, c'est pas comme... Ça démontre pas que son leadership est boiteux un peu. Mais... lui, le premier vote, il est le seul à s'opposer. Toute son équipe décide, non, nous autres, on vote l'autre bord.
Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant comme dynamique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas imposé de ligne de parti ou il n'a pas convaincu ses collègues? Peut-être. Peut-être que ça indique aussi que finalement, Action Gatineau ne va pas travailler nécessairement en bloc d'opposition systématique.
Là-dessus, il y avait un vote libre, visiblement. Là.
Clairement.
Ouais.
Clairement. Mais jusqu'à quel point il pourrait imposer une ligne de parti, je ne le sais pas. Mais c'est intéressant parce que des collègues d'Action Gatineau ont soulevé les inquiétudes
pendant la
discussion.
Mais moi, je me mets dans
sa peau,
là. Ouais, ouais. Lui, là, il doit être un peu déçu. Il doit se dire, « Ouais, je suis le leader, en principe, là, puis je suis le seul qui s'y oppose aujourd'hui. »
C'est particulier.
Il n'y en a même pas un ou deux qui m'a suivi là-dedans,
là. C'est particulier, quand même, de voir ça. Ceci dit, bon, ce que je trouve intéressant, c'est que Action Gatineau est prête à accorder la chance aux coureurs en ce qui a trait à la vision de France Bélisle.
Oui.
Sauf que...
Oui, sauf que si jamais ça allait mal puis qu'il devait couper dans des choses qu'Action Gatineau juge importantes, ils vont s'empresser pour dénoncer ça haut et fort.
Et ça, écoute, au niveau des coupures, il y en aura.
Elle pourra dire, ben vous aviez voté avec nous pour repousser le budget, vous étiez conscient que ça coûterait 725 000 piastres de plus.
Et peut-être que là, et là je spécule, là, mais peut-être que le positionnement stratégique de Steve Morin en votant contre, lui pourra dire devant les électeurs « j'ai voté contre », lui pourrait peut-être dire « j'ai assumé un leadership dès le départ contre la vision de France Bélisle » et si d'aventure Maud Marquis-Bissonnette tire sa révérence, ben Steve Morin pourrait être celui qui dit « j'ai été l'opposition au Conseil de ville de Gatineau ».
Cela dit, il y a de la marge. On nous dit qu'il y a de la marge avec la taxe de bienvenue puis des réserves. Puis c'est là qu'on voit, puis on doit s'arrêter là-dessus. Là, Benoît me fait des gros yeux, puis tu sais que Benoît, ses yeux sont gros en tape, sont mauvais en tabarouette quand il est choqué. Mais ça prouve que quand on veut, on peut. Alors, on verra ce que ça va donner. On pourra s'en reparler
Absolument. En
janvier. Ça va nous faire de la matière en janvier.
En masse.
D'habitude, c'est tranquille. Merci beaucoup, Carl. Salut. Bonne fin de journée. Bougez pas. Rock Saint-Jacques et l'immobilier dans un instant.